Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on est bien heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. On est donc quelques heures après la conclusion de ce Grand Prix de Singapour et alléluia, ça n'est pas un vainqueur issu de l'équipe Red Bull qui s'est imposé à Singapour. Évidemment, Carlos Sainz a remporté ce Grand Prix. On va commencer en s'occupant du cas de l'Espagnol Sainz, choisi par Ferrari et qui a tout contrôlé pour aller chercher la première victoire des autres cette saison du côté de Singapour. Alors Red Bull a été battu à Singapour. On va se poser la question avec Stéphane de savoir est-ce que c'est la fin d'une série quand même assez incroyable, hein, 15 victoires consécutives. Voilà, est-ce que c'est simplement ça, un épiphénomène, ou bien est-ce qu'on va carrément changer d'époque? On va se poser la question sérieusement. Et puis Mercedes, l'équipe Mercedes a été audacieuse pendant ce Grand Prix de Singapour, avec des choix dès le vendredi pour économiser des pneus en vue de la course. Et puis un George Russell un petit peu fragile qui est allé à la faute en toute fin de Grand Prix. On fera le bilan aussi pour les flèches d'argent. Stéphane, on a plein de choses, plein d'enseignements à tirer de ce Grand Prix de Singapour.
Oui, vraiment. Et on va reparler de Lewis Hamilton. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années-lumière qu'on n'a pas parlé de lui. Retour à la troisième place du championnat, c'est bon aussi. On redistribue les cartes, comme tu l'as dit. On verra si dans les prochaines semaines, c'est juste un petit trou d'air de Red Bull ou c'est le début d'un partage à nouveau du pouvoir en Formule 1 entre deux ou trois équipes, ce qu'on espère.
Alors, on commence avec Ferrari, évidemment, et Carlos Sainz en particulier, superbe vainqueur du Grand Prix de Singapour après avoir réalisé la pole position le samedi. Carlos Sainz, il a tout simplement donné le sentiment de tout maîtriser. Alors, pendant la qualification déjà, où il a quand même modéré son effort parce qu'on voyait bien que les pneus avaient du mal à tenir sur l'ensemble d'un tour, et puis ensuite, pendant le Grand Prix, où il a fait aucune faute, où il s'est même permis finalement de relâcher un petit peu la pression à un moment pour se protéger assez paradoxalement des Mercedes en redonnant volontairement le DRS à Lando Norris qui était en deuxième position. Enfin, stratégiquement, c'est quand même un petit bijou réalisé à merveille par la Scuderia Ferrari. Après sa troisième place à Monza, hein, il était parti déjà de la pole. Carlos Sainz a fait une rentrée magnifique. Et maintenant, on va se demander s'il n'a pas pris tout simplement l'ascendant sur Charles Leclerc. On a évoqué le fait qu'il prétendait à la place de numéro 1 chez Ferrari et qu'il ne l'obtiendrait sans doute pas. Et quelque part, avec ce qui s'est passé ce week-end, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est sûr de ça?
Il n'avait jamais réalisé de podium avant Monza. T'imagines un petit peu la coup sur coup. Il vient de remettre les choses en place chez Ferrari. Moi, je parlerais de masterclass, vraiment un grand, grand numéro. Peut-être même comme n'en a jamais réalisé Charles Leclerc, franchement très impressionnant en termes de gestion de course. Et là, je me suis dit, ça, c'est ces grands prix-là, c'est vraiment réservé à des champions exceptionnels comme Verstappen ou Hamilton. Et aussi, Alonso, ça m'a fait penser à ce qu'avait fait Alonso, qui s'était révélé à Imola en 2005 en tenant derrière lui pendant les 13 derniers tours Schumacher. Oui. Et il l'avait fait exprès. Parce qu'il avait peur du trafic sur cette piste, peur de dépasser des retardataires. Et à une dizaine de tours de la fin, il y avait un débutant qui s'appelait Vitantonio Liuzzi sur Red Bull. Il ne savait pas trop comment est-ce qu'il allait réagir au moment de le dépasser. Eh bien, il avait baissé son rythme de 2 secondes tout en gardant volontairement Schumacher dans ses échappements. Fallait quand même le faire. Fallait avoir du cran pour ça.
Ouais, clairement.
Et alors, Sainz n'avait pas un calibre de Schumacher dans ses rétros dimanche, mais ça fait rien quand même. Il a géré, il contrôlait à tel point qu'il a bluffé son ingénieur, Ricardo Adami, qui lui a dit « je te rappelle quand même que tu laisses... Norris dans ton DRS, donc c'était à 8 dixièmes derrière lui, il a dit bah oui, c'est fait exprès.
Ouais, non, mais c'était vraiment étonnant le calme, la façon dont il a géré cette course avec des phrases à la radio. Hein, là, je pourrais tourner comme ça pendant, je sais plus comment il a dit, jusqu'à l'éternité. Enfin, vraiment, on le sentait
dans la zone.
Ouais, exactement, maître de tout ce qui était autour de lui. Après la qualification samedi, à l'issue de laquelle il avait donc l'assurance de partir de la pole position, devant George Russell, ça aussi c'est un élément important, parce que ce n'était pas Charles Leclerc qui était à ses côtés sur la première ligne. Finalement, la décision elle a été assez simple. Ce mot, il est peut-être un peu fort, justement, simple. Mais on a décidé chez Ferrari de tout mettre pour que Carlos Sainz remporte ce Grand Prix. C'était lui le mieux placé sur la grille et Ferrari avait vraiment besoin de cette victoire. C'est une décision qui, d'après ce que l'on sait, a été annoncée par les pilotes, qui a été assumée par le patron Fred Vasseur, même si ça fait toujours des vagues en interne, hein, parce qu'avant le départ, dire ça, c'est toujours un petit peu compliqué. L'histoire retiendra que c'est Carlos Sainz qui a donné la première victoire de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari. C'était sans doute pas écrit comme ça avant le début de la saison.
C'est aussi là, quelque part, un acte de naissance de Fred Vasseur chez Ferrari, qui est arrivé de façon très, très prudente parce qu'il y avait un environnement de médias, il y avait beaucoup de gens liés à l'ancienne administration de Mattia Binotto et il ne fallait pas tout bousculer pour bousculer. Et la première des choses qu'il avait faites, c'était analyser les stratégies de course et ce qui n'avait pas fonctionné en 2022 dans le dispositif de Mattia Binotto. Et il en avait ressorti une idée forte, c'est qu'il fallait ramener le stratège en chef Iñaki Rueda à l'usine et avoir une communication plus directe pour avoir des décisions plus simples, plus compréhensible, même s'il y a eu des couacs. Hein,
on en a vu.
Précédemment dans la saison. Mais il a fait ça par petites retouches, sans s'affoler. Et puis, ce week-end, on avait pris le parti aussi de ne pas installer un nouveau package comme Mercedes l'avait fait à Monaco ou comme même McLaren l'avait fait pour ce Grand Prix de Singapour au service de Lando Norris parce que c'est tout de suite très compliqué sur un circuit en ville. Et la priorité, c'était vraiment l'exploitation, les réglages, l'optimisation. Et quand ils ont compris rapidement que Red Bull n'était pas bien à la ramasse, comme
ah
il
oui.
a dit,
ouais,
là,
ouais.
ils ont sauté sur l'occasion et ils se sont dit, on va privilégier vraiment le poleman, on va faire une stratégie à 2 contre 1, sauf que sur ces 2 pilotes, on va en sacrifier un.
Ouais, non, mais clairement, et cette victoire, elle donne du temps maintenant à Fred Vasseur, parce que, évidemment, ça ne va pas bousculer les équilibres, on ne va pas revenir sur Max Verstappen au championnat et on ne reviendra pas sur Red Bull. Ouais. Je dis ça, en même temps, Ferrari peut viser la 2e place au classement des constructeurs. Encore, on y reviendra en parlant de Mercedes un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais on est loin désormais de la 4e place du classement des constructeurs derrière Aston Martin, où là, on flirtait avec l'humiliation pour les tifosi. Ça va donner du temps à Fred Vasseur pour installer les changements. Il y a encore beaucoup de travail, hein. Évidemment, on est toujours dans le processus de recrutement, essayer d'étoffer la cellule technique pour, on ne parle même pas de la voiture de 2024, on parle de la voiture de 2025 et aussi franchir le pas en 2026. On a parlé de cette situation de Carlos Sainz. Qu'en est-il de Charles Leclerc? Parce que j'en reviens à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Carlos Sainz ne sera pas le numéro 1 chez Ferrari. Ok, là, ça fait quand même plusieurs Grands Prix qu'il a le dessus sur le Monégasque. Là, il a quand même fait, pour moi, le plus beau week-end de sa carrière. Est-ce que ça ne va pas finir par fragiliser, affecter, mettre en difficulté Charles Leclerc?
Tu as dit que cette victoire achetait du temps à Fred Vasseur dans sa gestion de l'équipe. Ça lui achète aussi de la paix. Tout simplement parce que
peut-on avoir la paix quand on est à la tête de la Scuderia?
Le clan Sainz, le pointait du doigt comme le patron de Charles Leclerc, le fils préféré,
partisan.
Etc., partisan. Carlos Sainz, senior, le double champion du monde des rallyes, mais depuis, de toute façon, les années Red Bull, hein, depuis la première saison de son fils en Formule 1, au contact de Max Verstappen, donc de Jos Verstappen, il a toujours dit que son fils était désavantagé, etc. C'est toujours la même histoire. Et que moi, je trouve qu'il avait eu des propos outranciers après Monza en disant quand Leclerc est devant, il y a des positions qui sont figées. Et puis, quand c'est mon fils, en fait, Leclerc a le droit de l'attaquer. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faudrait juste qu'il se souvienne l'année dernière les circonstances dans lesquelles Sainz a gagné son premier Grand Prix à Silverstone. Leclerc avait été complètement, lamentablement sacrifié. Bon, et je dirais même trahi.
Est-ce qu'il avait été sacrifié ou est-ce qu'on avait été très, très mauvais du côté de
Et là, c'est vrai que ça a été un choc. On a tout de suite compris ce qui se passait quand on demande à Charles Leclerc de maintenir un gap, un écart de 3 secondes, puis de 5 secondes, quand même, ce qui est incroyable. On a même l'impression en fait, qu'on lui annonce ça en direct et qu'il savait qu'il fallait qu'il soit au service de son leader. Donc, il fait le job. Pneu tendre, c'est quand même pas facile. Il fait déjà un premier effort. C'est une option quand même qui est assez risquée.
Ouais.
Pour dépasser Russell au départ, ça marche très très bien et on le demande encore plus. Et là, il comprend de toute façon qu'il n'a aucune marge pour négocier parce que Red Bull est loin derrière, ne va pas gagner.
Et que si, c'est la chance de l'équipe.
Voilà, il ne peut pas être le fossoyeur de l'équipe. De toute façon, il en fallait un qui gagne et c'était ça le plus important. C'est ce qui s'est passé.
En fait, Charles Leclerc, il a perdu le Grand Prix à la qualif samedi.
Il l'avait perdu.
Il l'a dit d'ailleurs.
Il l'avait perdu de 67 millièmes à Monza. Mmh. C'est ce qui le séparait de la pole position signée Carlos Sainz. Et là, il l'a perdu d'un petit peu plus de 79 millièmes, je crois. Ça veut dire que 79 millièmes à cause d'une petite erreur dans le virage numéro 17. Ça, c'est ce qui sépare. Probablement une inversion des positions. C'est pour ça que je serais assez prudent sur le statut de pilote numéro 1 de Sainz jusqu'à la fin de la saison. Si Leclerc avait été en pole position devant Sainz, c'est Sainz qui aurait été certainement, très certainement, au service de Carlos Sainz dans cette course. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Carlos Sainz a fait une démonstration absolument éblouissante. Vraiment, comme on en voit rarement une ou deux dans une saison, franchement, et c'est réservé à des grands pilotes. Il a peut-être changé de dimension, dimanche.
Oui, c'est exactement ça, en fait. Peut-être qu'on a franchi un cap maintenant pour Carlos Sainz. C'est tout le mal qu'on lui souhaite à lui et à la Scuderia. Je voudrais revenir sur un petit point technique. Tu disais qu'il n'y avait pas eu de nouveauté du côté de Ferrari à Singapour. Ah, j'ai cru comprendre, moi, qu'il y avait eu un nouveau
Beamwing. Oui, tout à fait. Alors,
sur la voiture.
Je ne parle pas d'un package d'ampleur, mais sur des circuits, c'est même pas spécifique, mais il y a peut-être toujours un peu une variation qui n'engage pas grand-chose en termes de dépenses financières, parce que les équipes maintenant sont tenues
par
le budget cap. Voilà. Donc, effectivement, c'était à la marge, on n'en a pas tellement entendu parler, ils sont vraiment concentrés sur les réglages. Et Sainz a dit que la voiture était très très bien dès les premiers tours de roue, ça a très très bien fonctionné. Ils font 1 et 2 pour la première fois de la saison en essai libre 1 et 2 le vendredi. Là, tu te dis que c'est bien parti. Il y a l'interrogation des quantités d'essence embarquées qui étaient à lever, ça a été fait samedi en essai libre 3. Et puis, on a vu que c'était Russell qui était le challenger numéro 1. Le décor a été planté pour la course.
Voilà, et donc, il y a eu apparemment un nouveau Beamwing. Donc, c'est l'avant du plancher de la Ferrari qui était un petit peu nouveau. Le but, c'est d'essayer de limiter le caractère sous-vireur de la Ferrari, qui a pour conséquence de beaucoup manger les pneus. On a vu encore à Monza que Carlos Sainz avait été victime d'une usure de ses pneumatiques très très forte.
Oui.
Si là, en plus, on a réussi à contrecarrer un petit peu cette tendance de la voiture, ça peut s'avérer d'autant plus efficace à Suzuka le week-end prochain. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter pour relancer complètement la saison.
Alors, Leclerc, ce que je lui reprocherais juste, il a bien fait le job parce qu'il a compacté le peloton avant l'entrée en vigueur de la période de safety car. Ça a même été une intuition, mais géniale, fascinante,
qui lui coûte très cher.
Il a senti qu'on allait rentrer dans une période de voiture de sécurité. Donc là, il n'avait pas le droit de ralentir anormalement le peloton. Il l'a fait juste avant. incroyable, en prévision d'un double arrêt. Donc là, tout était prêt, mais il l'a payé au prix fort parce que...
Obligé d'attendre que les autres passent dans la voie d'évolution des...
Tout à fait. Mais ce que je lui reprocherais quand même, c'est en fait l'erreur qu'il a commise. Au 23e tour, il se rate dans un virage et là, Hamilton passe. Et là, il n'a pas le droit.
Ah, c'est sûr que... Ça, et ça tranche d'autant plus avec le Grand Prix absolument parfait de son coéquipier. Voilà où on en est avec une rentrée des classes parfaitement réussie pour Carlos Sainz. Un petit peu plus compliqué pour Charles Leclerc à confirmer tout ça du côté de Suzuka. Alors évidemment, si Carlos Sainz s'est imposé, c'est donc que la série de Red Bull, hein, série de 15 victoires consécutives pour les hommes de Christian Horner, la série de 10 victoires consécutives de Max Verstappen, s'est interrompue. C'est aussi la première course sans podium pour une Red Bull depuis le Brésil l'an passé. Hein, Max Verstappen, cinquième hier à Singapour. Sergio Pérez a terminé à la huitième place.
Et toujours pas de victoire de Verstappen à Singapour.
À Singapour, oui, c'est vrai.
Historiquement, étrange.
Pas de Red Bull en Q3 non plus, samedi, en qualification.
Une première depuis 5 ans, ouais, c'est aussi. Ça. Donc, là, et c'est un fiasco technique, hein. Il n'y a pas de problème d'alimentation en essence comme il y avait eu en...
Oui, non, voilà, là, c'est comme, à la régulière, on l'a connu, comme on dit, à la régulière. C'est-à-dire que les autos fonctionnaient, il n'y a pas eu, tête à queue, il n'y a pas eu de pluie qui a piégé les pilotes. Alors... Ce qui a beaucoup intrigué dans le paddock, c'est que ce manque de performance là, des Red Bull, qui s'est senti dès le vendredi, est arrivé à un week-end où on a appliqué une nouvelle directive de la Fédération internationale de l'automobile concernant la rigidité de certains éléments aéros. On pense essentiellement aux ailerons avant et arrière. Et il y a aussi des éléments qui sont sous le plancher, qu'on ne voit pas, mais qui étaient concernés par l'entrée en vigueur de cette directive technique qui est la TD018, hein, pour tout vous dire. Alors, est-ce que c'est ce qui faisait la réussite des Red Bull jusque-là? Et qui d'un seul coup ont été stoppés dans leur élan.
Christian Horner s'est inscrit en faux là-dessus. Oui, bon, évidemment, de toute façon, il ne pouvait pas dire « Ah, vous savez, oui, ça nous a fait beaucoup de mal. On est dans une zone grise là-dessus. » Et on s'est fait
coincé
gros, ouais. Les doigts dans le pot de confiture. Bon, donc il dira jamais ça. Moi, je repense simplement à cette vision qu'on a eue de la Red Bull suspendue au Grand Prix de Monaco en l'air avec la vue, oui. Vraiment toutes ces ailettes, ouais. d'une sophistication hallucinante. Et là, la FIA s'est dit bon, bah, si on enlève tout ça, qu'il se voit pas, on va peut-être un petit peu rogner sur la performance des Red Bull. Je ne sais pas encore si c'est, on ne sait pas si c'est un hasard ou une coïncidence.
Ça faisait un petit moment.
Cette baisse de régime.
Ça faisait un petit moment que la FIA échangeait avec les équipes en expliquant qu'on allait être un petit peu plus rigoureux, notamment sur la planche en bois, hein, qui est sur le plancher des autos. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que c'est l'application de cette nouvelle règle qui a détruit la performance de la Red Bull, ou est-ce que c'est simplement un hasard? Avec le fait que Singapour, déjà, c'est la piste qui évolue le plus,
3 secondes.
Le plus entre le début et la fin du week-end. Hein. C'est une piste sur laquelle, au moment où on enregistre notre podcast, les gens roulent avec leur voiture de tous les jours. Ouais. Donc forcément, c'est pas un circuit. On est arrivé du côté de chez Red Bull. Ça, c'est un autre point que je voulais évoquer. Apparemment, avec des datas qui n'étaient pas bonnes, dans le sens où sur le simulateur apparemment de Red Bull, on n'avait pas exactement la bonne topographie du terrain.
Vous avez oublié d'acheter la nouvelle carte.
C'est un peu ça. C'est un peu ça, dans le sens où il y a certaines.
Tu veux dire qu'ils auraient peut-être des problèmes financiers, budget cap, etc. Ce sera extraordinaire.
Je ne sais pas si c'est ce qui coûte le plus cher, mais si. de ce que j'ai entendu,
c'est en dizaines de milliers d'euros quand même.
De ce que j'ai entendu. Il y avait des bosses sur le circuit l'année dernière qui n'étaient plus là cette année parce que tout simplement à Singapour on a refait une partie du revêtement et qui n'avaient pas été pris en compte par le simulateur. Donc en fait les datas d'un seul coup, les simulations ne sont plus bonnes. Et quand on a posé la voiture sur la piste vendredi, sur une piste qui était encore verte, Verstappen s'en est sorti sur la première séance d'essai libre, mais plus on avançait, moins la Red Bull parvenait à avoir de la performance.
Il a vite grogné quand même, hein, du survirage à l'excès, alors que lui, il aime justement avoir un train arrière léger et un avant précis, mais il n'avait même pas de grippe à l'avant. Il se plaignait beaucoup aussi des montées et des descentes de rapports de boîte. Ça a été très, très sensible à ça. Hein. Vraiment, il leur a dit « c'est inacceptable », tout simplement dans son langage qu'on lui connaît bien. Alors là, quand il dit ça, c'est que vraiment, ça veut dire que…
Il n'est pas
voilà. Et puis, alors, vu son attitude aussi pour aller à la pesée… Après la qualif, ouais. Une fois éliminé, son physio ne l'a même pas suivi jusqu'au bout. Donc, c'était pas la peine, fallait le laisser tranquille ces cas-là.
Et pour avoir eu des échanges avec des personnes qui étaient sur place dans les couloirs et dans l'environnement direct de Max Verstappen après la qualification, il y en a plusieurs qui nous ont dit, mais il y en a un qui m'a dit, j'ai cru qu'il allait me bouffer dans le couloir, quoi. Donc là, il y avait vraiment une vraie contrariété. On a beaucoup joué sur la hauteur de caisse chez Red Bull, que ce soit pour celle de Max Verstappen, pour la voiture de Max Verstappen ou pour celle de Sergio Pérez.
Qui n'était pas bien du tout non plus, oui. Hein, Pérez, vraiment.
En fait, la Red Bull, elle a cette capacité à rouler très très bas sur le train arrière sans provoquer de rebond. Alors que toutes les autres voitures sont obligées d'être un petit peu plus hautes pour éviter ce marsouinage. Sauf que à Singapour, vous êtes quand même obligé d'augmenter un tout petit peu la hauteur de caisse, parce que même si on a dit qu'il y avait moins de bosses, il y a quand même des bosses et que ça a manifestement bien compliqué la tâche des ingénieurs. À la War Room de Red Bull à Milton Keynes, on a turbiné tout le week-end sans finalement trouver la solution miracle, et ça a abouti donc à cette cinquième place seulement, entre guillemets, de Max Verstappen, la huitième de Sergio Pérez.
C'est incroyable quand même. À Monaco, il y avait un petit warning qu'on avait bien perçu chez Red Bull. Circuit en ville, bosselé, compliqué. Et Verstappen avait dit, on sera encore en danger sur ce type de circuit. Et le prochain, le suivant sur la liste, c'était Singapour.
C'est Singapour. Alonso avait même dit que ça serait sa plus grosse chance de remporter une épreuve cette saison. Bon, il est passé un peu au travers avec son Aston Martin. Voilà où on en est. Et donc, la question dans le paddock, c'était de savoir, en remballant dimanche soir, en fait, tout le monde était pressé de savoir ce que ça allait donner dans quelques jours sur le circuit de Suzuka, pour savoir si finalement l'entrée en vigueur de cette directive numéro 18, eh bien, ça ne va pas redistribuer un petit peu les cartes. Et si ça ne va pas... Alors évidemment, hein, tout le monde doit appliquer cette règle. Red Bull, comme toutes les autres équipes et toutes les autres voitures. Mais manifestement, ça pourrait impacter davantage la RB19 que les autres autos. On est assez impatients, nous aussi, de voir la première qualif, la qualif du côté de Suzuka.
Je te donne un petit indice quand même. Mercedes a progressé en qualité routière, hein, mais la Ferrari n'aime toujours pas les virages rapides. Et là, il y en a quand même un paquet à Suzuka. Donc, il faut s'attendre à ce que Ferrari rentre dans le rang et on verra si Red Bull reprend sa place et qui est le challenger derrière. Probablement Mercedes, on verra. C'est un petit pronostic que je formule, on verra ce qu'il en est. Hein. Mais normalement, chez Red Bull, on n'est pas tellement inquiet. Verstappen a dit que la voiture se comporte souvent très très bien là-bas, donc c'est un circuit pour nous.
Bon. Ah, il a même dit hein, d'ailleurs que sur les simulations, ça se passait mal. Avant d'arriver à Singapour, hein, sur les simulations, ça se passait mal sur le circuit de Singapour. En revanche, avec la même configuration, ça allait beaucoup mieux à Suzuka. Donc, a priori, on devrait retomber, le taureau rouge devrait retomber sur ses pattes. Eh ben, on est pressé de voir ça. De toute façon, le week-end singapourien avait mal commencé.
Oui, il n'y a qu'un truc à retenir, c'est le meilleur temps du pit crew en course pour Pérez. Autrement, tout le reste a été mauvais et c'est parti de travers, vraiment, dès le jeudi.
Oui, bah oui.
Dès jeudi.
On va y revenir parce que tonton Helmut a encore fait parler de lui.
Dérapage, ouais, forcément. Alors, c'est un monsieur qui est habitué un petit peu aux outrances. Ça ne le dérange pas. Oui, il est comme ça, voilà, point. Et puis, on n'en fait pas trop de cas. Et à Monza, ça avait été vraiment le propos de trop. Discriminatoire avec.
Tu l'as la phrase qu'il a
prononcée. Des sous-entendus.
Donc
voilà.
Helmut Marko à destination de Sergio Pérez.
Sur Servus TV, qui est la télé qui appartient à Red Bull, et il avait dit, pour expliquer les performances en dents de scie de Checo Pérez cette année, il avait dit Pérez a des fluctuations dans ses performances, il est sud-américain, entre parenthèses, je rappelle qu'il est mexicain.
Oui, donc pas en Amérique du Sud.
Il n'est pas aussi complètement concentré dans sa tête que Verstappen ou que Vettel. Voilà, point. Et puis évidemment, quand il y a eu la levée de bouclier, il en a rajouté une couche parce que c'est dans son caractère, vraiment. Et il avait dit, je voulais dire qu'un Mexicain a une mentalité différente de celle d'un Allemand ou d'un Néerlandais. Merci beaucoup, Helmut. Voilà.
Bon, arrête là, Helmut, c'est bon.
Voilà. Et là, après, là, c'est monté très très haut, très vite. Mais je trouve que Red Bull n'a pas eu de réponse à la hauteur de ce qui, de ces propos qui sont vraiment, alors Toto Wolff a dit d'un autre temps, qui n'ont pas de place non plus dans l'avenir de la Formule 1, encore moins dans le sport et puis voilà, dans notre société aujourd'hui. Et je trouve que Red Bull est resté dans un entre-deux. Ils ont fait une mise au point sur Sky, la télévision anglaise, en disant qu'effectivement, ils ne cautionnaient pas ce genre de propos, que le racisme et la xénophobie n'avaient pas leur place dans le sport et dans la société. Très bien. Mais ils n'ont pas condamné fermement. Et le lendemain, il y a Christian Horner qui donne une conférence de presse, ce qu'il avait, il avait donné un rendez-vous à la presse, aux médias. Et là, en fait, il dit aussi, c'est pareil, Helmut Marko s'est excusé auprès de Pérez, qui
ils se
a
sont
accepté
parlé. Ouais,
voilà. Ses excuses, point. Et Pérez a dit, bon, je sais comment il parle. Voilà, j'ai compris qu'il ne voulait pas dire ça, mais bon, il l'avait dit quand même.
Mais t'imagines si Sergio Pérez dit, de toute façon, Helmut Marko, c'est un gros bip, il se fait virer dans la minute, il ne peut
tout
pas
à
le
fait.
Dire.
Donc, le problème, ça ne devient plus par rapport à ce qu'il a dit par rapport à Pérez, mais vraiment un propos qu'il a tenu par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, une personne lambda, pilote ou autre. Voilà. Et là, je trouve que j'ai même halluciné quand Horner a dit « Mais en fait, moi, je ne peux pas le sanctionner parce qu'il n'est pas un employé de l'écurie. » Voilà, tout à fait. Alors, techniquement, je dirais, juridiquement, c'est vrai. Il a toujours été un conseiller spécial auprès du président, du PDG de Red Bull, Dietrich Mateschitz, voilà, c'est ça, qu'il avait placé à la tête de l'écurie pour dire, bon, bah, tu organises le rachat de Jaguar Racing et puis tu recrutes et on y va, c'est parti. Et là, ça se passe un petit peu moins bien depuis le décès de ce monsieur et remplacé par Oliver Mintzlaff. Mais Horner, je trouve que c'est un petit peu fort parce qu'il a dit, voilà pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas le sanctionner. Et il dit bien qu'il n'appartient pas directement, qu'il n'est pas un employé de Red Bull Racing. Très bien. Et souviens-toi du propos que nous avait tenu Pierre Vacher, quand on l'avait eu en invité dans Les Fous du Volant. On lui avait dit, mais en fait, est-ce que, j'avais posé cette question, est-ce que Helmut Marko, justement, il n'est pas le lien idéal entre les pilotes, parce qu'il a été pilote lui-même de Formule 1, vainqueur des 24 Heures du Mans, pour faire l'interface entre le pilote et la cellule technique, etc. Et Pierre Vacher nous avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant, qu'on réapprécie rétrospectivement. Il avait dit, en fait, Helmut Marko, il est tout le temps sur les circuits, mais il n'est pas à l'usine. Ça veut dire, en fait, qu'il n'est pas un employé de Red Bull F1. Et à l'époque, eh bien, il y avait la question de savoir si trois écuries étaient en train d'enfreindre le règlement financier, le budget de cap en Formule 1. Parce que dans ce budget de cap, il y avait une question qui se posait clairement, est-ce qu'on doit compter le salaire d'Helmut Marko dans les comptes de Red Bull. Alors Peter Winsor, qui est un ancien directeur sportif de l'écurie Williams, journaliste reconnu britannique en Formule 1, avait évalué à peu près cette somme-là à 4 ou 5 millions d'euros. Ça n'en fait pas l'un des trois plus gros salaires du management, parce que le budget cap, ça fonctionne pour tout le monde, sauf les deux pilotes et le top 3 du management. Donc, dans le top 3, de toute façon, on peut penser à Adrian Newey, Christian Horner et puis peut-être Pierre Vacher, des gens comme ça. Mais donc, ça veut dire qu'il y a 4 ou 5 millions d'euros qui sont cachés, qu'on ne considère pas employé. Alors, si tu veux, quelque part, Helmut Marko, c'est le contraire d'un emploi fictif.
Oui.
Il fait un travail réel, mais il n'est pas payé par Red Bull. C'est fantastique. Et ce qu'a dit là, vendredi...
Par contre, les boulettes, elles sont pas fictives non plus.
Horner, ce qu'il a dit, c'est que ça confirmait, il tenait à insister sur le fait que, finalement, Helmut Marko n'est pas un employé de Red Bull et que donc, on ne peut pas compter son salaire dans le budget de cap. Et ce qui s'est passé depuis, là, notre interview avec Pierre Vacher, c'est que toutes les écuries ont reçu l'agrément de la FIA comme quoi elles n'avaient pas enfreint le règlement. Mmh. C'est fantastique.
Donc, il y avait quelque chose,
c'était caché derrière. Alors, c'est vrai qu'on nous a dit après, mais oui, mais alors, il travaille pour quand même les pilotes, c'est un peu fort, il fait de la communication. il est intégré à l'écurie. Donc, c'est ça qui est un petit peu extraordinaire. Et ce qu'on peut regretter, c'est que Horner n'a pas dit bon, on va en discuter ça en interne, même si moi, je ne peux pas, alors que Christian Horner est CEO de Red Bull Racing. Donc, il pourrait en toucher un mot au Big Boss et dire il faut juste envoyer un message en expliquant qu'il va y avoir une sanction interne. Et déjà, ça nous aurait suffi. Non, on n'est pas allé plus loin. Et donc, Helmut Marko pouvait continuer à dire ce qu'il voulait, jusqu'à quand même l'avertissement de la FIA, qui est très clair, et je pense qu'il n'y en aura qu'un. Elle a dit, c'est une figure de la Formule 1, reconnue, et c'est quelqu'un qui doit se tenir à un comportement éthique, clairement. Et je pense qu'à la prochaine incartade, on lui enlèvera son pass F1, il n'aura plus accès au paddock, et ce sera terminé.
Un petit peu comme on l'avait fait avec Nelson Piquet.
Avec Nelson Piquet, avec Bernie Ecclestone aussi, parce que là aussi, c'est pareil, il a entre guillemets un palmarès assez chargé en termes de dérapage. Donc, ça veut dire quand même que Helmut Marko, maintenant, il est surveillé et qu'il ne peut plus dire n'importe quoi comme il le faisait jusqu'à présent.
Voilà pour cette parenthèse sur Helmut Marko. On va passer au troisième acte des fous du volant aujourd'hui, en évoquant le cas de Mercedes, avec ce nouveau podium pour Lewis Hamilton. Mais finalement, un Grand Prix de Singapour, Stéphane, qui va laisser un goût un petit peu doux-amer à Toto Wolff et à son équipe, parce qu'on avait fait une belle qualification, mine de rien, on est passé tout près de la pole position pour George Russell. On a été proactif pendant la course, avec une initiative qui était quand même très très courageuse pendant la voiture de sécurité virtuelle après l'abandon d'Esteban Ocon. On décide finalement de remettre en jeu les places qui étaient presque assurées de deuxième, notamment pour George Russell, en faisant rentrer les deux voitures, en plus les deux voitures, parce qu'il restait pour chacune des deux un train de pneus neufs médium, ce que n'avaient pas les adversaires, et en se disant allez, maintenant on met des pneus neufs et on essaye de remonter sur la quinzaine de tours qu'il restait à négocier. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Sauf que George Russell, dans le dernier tour, s'est fait piéger et est allé taper le mur. Pourtant, les deux Mercedes, elles étaient deux secondes plus rapides que toutes les voitures sur cette dernière partie de course. C'est le cinquième podium de la saison pour Mercedes. OK, mais avec cette sortie de Russell, on aurait pu marquer 28 points et on n'en a marqué que 16. Et le bilan sur le passé récent, il est un petit peu inquiétant au final pour Mercedes, parce que Ferrari revient à 24 points au classement des constructeurs par rapport à Mercedes qui est deuxième. Sur les 4 derniers Grands Prix, Ferrari a inscrit 98 points et Mercedes n'en a marqué que 66. Et ça fait quand même 32 points de moins. C'est une tendance lourde. Ils ont été un petit peu mal récompensés, Stéphane.
Oui, on a parlé de paris osés. Souviens-toi à la radio, quand Ferrari prévient Leclerc en disant « Les Mercedes, maintenant, sont en pneus médium. » Elles ont chaussé ce fameux deuxième train de médium neuf. Et là, il dit « C'est le bon choix.
Oui. »
Il le sait très bien,
oui.
qu'ils vont revenir comme une balle. Et Hamilton a dit assez honnêtement, il nous a quand même manqué entre 5 et 10 tours.
Oui,
voilà. Donc, pour faire sauter le verrou, il y avait encore du chemin. Mais ce que je retiens aussi, c'est que Hamilton a fait un Grand Prix plein. Peut-être que son meilleur Grand Prix reste encore l'Australie, je ne sais pas. Il termine tout près de Verstappen. Il a remontré à nouveau toute l'étendue du pilote qu'il est, assez malin finalement. Quand il coupe le premier virage qui dépasse deux pilotes, il sait très bien qu'il va devoir rendre les positions.
Mais au moins, il se meurt d'atteinte.
Ouais. Mais il se meurt d'atteinte parce qu'il sait que derrière, ça peut bousculer. Et il a très, très bien compris que ce passage-là, ça lui assure de ressortir même devant en gagnant du temps. C'est un gain de temps, c'est extraordinaire. Ouais. Mais lui, au moins, il se met à l'abri des problèmes. Et Norris dit, de toute façon, il n'a même pas essayé de freiner.
C'est discutable comme manœuvre. Mais
c'est quand même génial.
Mais c'est bien réalisé.
Il temporise tranquillement quand il rentre au stand pour gêner Leclerc, pour l'empêcher de repartir, il perd une seconde peut-être, mais ça compte dans tout ça, parce qu'il vient juste, il se présente juste après Russell à son stand, mais il y a une petite temporisation, il sait très bien ce qu'il fait. Là, ça a été brillant, son dépassement sur Leclerc, il lui met un petit coup de pression, Leclerc craque, il passe tout de suite, et on voit ce que ça a fait pour la suite, ça a été déterminant. Et puis au 24e tour aussi, il embarque un petit peu au large Pérez. Pérez se plaint en disant, mais en fait, il m'a sorti pour dépasser. Et qu'est-ce que fait Hamilton? Eh bien, trois tours plus tard, il se dépêche de dépasser Verstappen. Comme ça, la FIA ne peut pas lui dire, bah, tu rentres ta position, c'est fini. Donc ça, c'était extrêmement malin. Et on a retrouvé ça. Et puis, un petit coup de pression à la fin, à la radio, à Mercedes, en disant, bah, il faudrait que George Russell aille plus vite. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si voilà, ça a été transmis à Russell, mais on sentait vraiment le chasseur qui était de retour.
Moi, je l'ai trouvé sur les dents, en fait. On avait dit qu'il avait été un petit peu absent, un petit peu tendre à Monza. Et là, je l'ai trouvé vraiment hyper, hyper agressif, hyper sur les dents. Alors que, on le rappelle, hein, Singapour, les conditions, elles sont loin d'être faciles physiquement. Je ne parle pas du circuit qui vous pardonne quand même quasiment aucune erreur. Hein, son coéquipier peut en témoigner. Mais l'humidité, la chaleur, normalement, ça vous fait souffrir. Il a quand même des 38 ans maintenant, Lewis Hamilton. Et on n'a pas le sentiment que ça a eu prise sur lui, alors que...
Quand même un petit peu fatigué. Quand il s'est assis, il avait besoin de s'asseoir à l'arrivée quand même, mais comme tous, hein, de toute façon.
Voilà. Et quand on voit la comparaison avec un Fernando Alonso qu'on a senti carrément émoussé, je me dis quand même, Lewis, il lui reste quelques beaux restes.
Il a fait un petit correctif quand même, parce que ce plan de se servir d'un deuxième médium, c'était celui de Russell. Toto Wolff a dit très clairement, de toute façon, si on fait comme ceux qu'on suit,
on gagnera pas.
Il faut faire quelque chose de différent. Mais Hamilton a quand même dit, moi, la place dans la position de Russell, au moment où il était devant Norris, je serais pas rentré, parce qu'il fallait tenir une position. Et je te rappelle que sur les 14 Grands Prix de Singapour, il y a 7 pilotes qui ont gagné en menant de bout en bout, dont Sainz dimanche. Ça veut dire que vraiment, c'est un circuit où tu tiens les positions. Si tu lâches quelque chose, tu ne sais pas si tu vas le retrouver.
Et cette statistique, elle peut être prise dans les deux sens, Stéphane. Ça veut dire aussi que si tu tentes rien, tu termines à ta place.
Oui, bien sûr. Mais peut-être que ça aurait permis à Hamilton de terminer deuxième. Et deuxième, ce n'était pas l'objectif de toute façon. Donc, c'était bien mieux quand même. Ils ont fait peur à tout le monde. Et c'est vrai qu'il a manqué quand même quelques tours, clairement. Et il l'a redit aussi, j'étais une demi-seconde plus rapide que Russell, mais en fait, sur ce circuit, il faut être une seconde et demie plus rapide pour être sûr de dépasser. C'est encore le grand problème de la Formule 1.
Ça rejoint l'échange qu'on avait il y a quelques...
Tout à fait, quand les performances sont similaires, on ne dépasse pas, quoi qu'il arrive. Voilà, donc un petit coup de DRS, même ça ne suffit pas forcément, comme quoi le DRS, ce n'est pas non plus l'outil magique. Bon, mais je trouve qu'il s'est superbement battu. Ça vaut une troisième place au championnat pilote maintenant. Il peut peut-être viser la deuxième place. Il n'est pas si loin que ça de Pérez, quand on sait qu'il reste 7 Grands Prix plus 3 courses sprint. À voir. Pérez est quand même sous pression. Moi, ça me plaît bien quand
43
même.
43 points de retard par rapport, tout à, fait, tout par à, rapport fait. À Sergio Pérez.
Donc, c'est rattrapable. Et de l'autre côté, effectivement, Russell a été assez malheureux.
Oui, parce qu'il avait fait une belle qualification hein, quand même, George Russell. Il est passé tout près de la pole position. Et puis ensuite, il s'est retrouvé. Donc déjà, il s'est fait dépasser par Lewis Hamilton qui faisait les extérieurs. On lui a rendu sa place. Mais quelque part, il se faisant dépasser par Charles Leclerc, il était mis en échec George Russell. Ensuite, quand il s'est retrouvé en piste après ce changement donc de pneumatique en médium neuf, avec quelque part maintenant l'obligation de transformer l'essai. Il fallait remonter vite. Et il s'est retrouvé à un moment à devoir essayer d'attaquer un Lando Norris qui avait reçu le soutien de Carlos Sainz parce qu'il avait le DRS presque offert par l'Espagnol. Et surtout, il ne pouvait pas mettre 100% de sa concentration sur cette bagarre parce qu'il avait derrière lui un Lewis Hamilton qui lui mettait lui-même la pression. Et je me demande si ce n'est pas ce qui l'a emmené quelques centimètres de la trajectoire et qui a provoqué sa sortie de piste. George Russell, il se retrouve 7e du championnat, Stéphane. Il a inscrit 44 points sur les 8 derniers Grands Prix, à comparer aux 93 points, le plus du double, ramené par Lewis Hamilton. On avait dit qu'il avait pris parfois l'ascendant sur Lewis Hamilton. Bah là, j'ai quand même le sentiment que la dynamique, elle a changé de nouveau de camp. Elle s'est un petit peu émoussée. Oui. Ce que j'aime bien chez George Russell, c'est qu'il ne fuit pas les responsabilités. Hein. Il a parlé de son erreur. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, dans le sens où il assume ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait de moins bien, ses ambitions, ses limites. Mais ça commence à faire beaucoup, là quand même, septième du championnat, quand votre coéquipier est troisième, ça commence peut-être à faire un petit peu tâche. Il ne faudrait pas que ça se prolonge. Alors on sait qu'il a prolongé son contrat, donc ça, quelque part, il est un petit peu protégé. Mais là, cette erreur quand même, monter sur le podium ou finir dans le mur, ça fait quand même une grosse différence.
Puis il a 12 points d'avance simplement sur Norris au championnat. Et on en reparle encore, hein, mais c'est peut-être les abandons aussi qui font la différence. Je vois que les quatre premiers du championnat ont zéro abandon au compteur. Donc Verstappen, Perez, Hamilton et Alonso. Que Norris aussi en a zéro. C'est comme ça aussi que tu avances. Il a battu les trois dernières fois en qualif Hamilton quand même. Donc ça veut dire qu'il a une vitesse qui est reconnue, mais qu'il ne parvient pas exactement à transformer en course. C'était quand même génial parce que cette histoire de deuxième train de pneus médium, c'était annoncé. Il a tout scénarisé pour ça. Je vois aussi qu'il est passé en tête ce week-end dans le duel en qualif. Il mène 8-7. Face à Hamilton en 15 séances de qualification. Donc ça veut dire quand même qu'il est là.
Il a une pointe de vitesse, clairement.
Tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, il fait une micro-erreur qui lui coûte très très cher. Et c'est là où c'est un petit peu le problème. C'est là où le blesse. Et à la fin, il était rincé. Il a dit que c'est la pire sensation du monde d'être aussi vidé que ça, physiquement et mentalement, à l'arrivée d'une course. Puis ajouter, terminer avec zéro point quand même, c'est ça.
Il y a quand même plus de 10 années d'écart avec Lewis Hamilton, qui, oui, était touché physiquement à l'arrivée du Grand Prix, on le serait à moins, mais qui a été à l'attaque jusque dans les derniers mètres de la course.
Ce que j'aime bien quand même chez George Russell, c'est que il a été le seul à faire de l'humour dimanche. Les mecs étaient cuits dans les voitures, dans cette étuve, dans ce sauna pendant 62 tours. On lui annonce que Sainz vient de dire qu'il a une petite seconde de marge là sous la pédale. Il dit tiens, je suis étonné qu'il n'ait pas dit deux. Ouais. Voilà, mais c'est pour ça aussi qu'on l'aime, c'est ce qu'on attend. Donc moi, ça me fait un petit peu de mal pour ce garçon, c'est vrai. Après, il perd pas grand chose cette année parce qu'on connaît sa valeur et qu'il n'y a pas un titre mondial en jeu, il n'y a pas des victoires à la régulière. Mais il avait peut-être l'occasion, oui, d'aller chercher une victoire. Mais même il aurait passé Norris, de toute façon, Sainz était suffisamment solide pour tenir la première place, j'ai aucun doute là-dessus. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose, lui, ce qu'il veut, c'est gagner.
Ben, ça sera partie remise, peut-être du côté de Suzuka, où aura lieu le prochain Grand Prix. On va vous donner les horaires, hein. Là, attention, va falloir vous lever tôt, les amis, 4h30 vendredi, pour la première séance d'essais libres.
Oui, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'un Grand Prix du Japon, ça se mérite.
Ouais, voilà, moi, je regarderai la deuxième séance d'essai libre à 8h.
ça a longtemps été le théâtre de l'attribution du titre mondial. Ça ne sera pas le cas de toute façon pour Max Verstappen.
Mathématiquement, ce n'est pas possible.
Pour Red Bull, qui avait déjà une première balle de match à Singapour. Deuxième séance d'essai.
Donc à 8h vendredi. Voilà. Ensuite, samedi, on recommence 4h30.
Allez.
Pour la troisième séance d'essai libre, tu me diras comment c'était, puisque toi tu vas te lever.
Non, mais je dirais pour un after, c'est l'idéal en même temps.
La qualif, ça par contre, il ne faut pas la louper, parce que la qualif du Grand Prix du Japon, ça vaut toujours son pesant d'or. Et puis là, quelque part, on saura vraiment où on en est du côté de chez Red Bull. Samedi, 8h pour la qualification, et puis le dimanche, lui, aura lieu à 7h du matin, dimanche prochain. Évidemment, on reparlera de tout ça juste après dans Les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on se quitte sur ces belles paroles. On met nos réveils tôt, au vendredi, samedi,
Wolf.
Dimanche. Magnifique. Et d'ici là.
Et Wolf, Toto Wolf, qui ne sera pas directeur d'équipe à Suzuka parce qu'il subit une opération, une intervention chirurgicale en Autriche. Et c'est Jérôme D'Ambrosio qui le remplacera. Et je n'aimerais pas être à sa place s'il y avait une stratégie façon Singapour à mettre en place, parce que là, il aurait l'impression qu'il joue sa carrière sur un dimanche.
Ah, mais c'est bien, en tout cas, c'est bien de voir que Jérôme est en train de s'installer aux côtés de Toto Wolff. Ça fait longtemps qu'on le voit désormais
tout à fait.
Aux côtés du patron de la firme à l'étoile. On lui souhaite le meilleur pour ses débuts officieux. D'intérimaire chef de chez Mercedes. Bon, d'ici là,
on coupe le contact.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.